Recto verso du lundi au vendredi de 18h à 18h30 et le mardi de 18h30 à 19h sur Radio Alpa 107.3. Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Recto Verso. Au Mans en ce moment, ce sont les semaines du développement durable. Alors nous sommes allés voir ce qu'il y avait dans nos campagnes. Avec moi pour parler culture bio, Fred Join, bonjour.
Bonjour.
Vous faites partie du GAB 72, le groupement des agriculteurs biologiques de la Sarthe, mais vous êtes ici aujourd'hui pour nous parler de la ferme du Hanneton. Vous avez monté cette exploitation avec Delphine Hanneton en 2010 en tant que maraîcher bio et vous cultivez désormais plus d'une quarantaine de variétés de légumes biologiques par an. Le détail dans un instant.
Recto Verso, présenté par Corinne Saint-Félix sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans.
Fred Join, vous êtes le co-gérant de l'exploitation La Ferme du Hanneton, installée depuis 2010 à 20 km du Mans, à Lombron, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Est-ce une reconversion, cette installation dans le bio ?
Effectivement, nous ne sommes pas issus du milieu agricole. Et auparavant, on travaillait dans le secteur de l'environnement. Ma femme travaillait donc dans les études de vent pour une entreprise qui faisait des éoliennes. Et puis moi, je travaillais sur la pollution de l'eau, donc les analyses et les prélèvements d'eau dans des zones qui sont polluées, notamment par les pratiques agricoles.
Pourquoi vous lancez-vous dans l'agriculture bio ?
On s'est engagé dans l'agriculture biologique parce que c'était une activité qui nous plaisait déjà. Et puis, de par notre sensibilité à l'environnement, il nous paraissait indispensable d'être en bio. Et ça nous apparaissait aussi comme un moyen concret d'agir sur notre environnement, sur vraiment un moyen d'agir sur la qualité de l'environnement.
Comment s'est passée l'installation en 2010 ?
Eh ben, on a racheté une ferme qui faisait déjà du maraîchage biologique. Donc il y avait déjà des serres, du matériel. Et puis c'était un petit peu à l'abandon quand même. Et donc il a fallu remettre tout ça en état, donc ce qui était un travail assez colossal. Et puis voilà quoi.
Est-ce plus difficile de s'établir lorsqu'on fait du bio, je pense notamment au niveau des aides, plutôt que de s'installer dans une exploitation, on va dire, traditionnelle de ce qu'on trouve de nos jours ?
Je sais pas si c'est plus facile ou plus compliqué aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué de s'installer, que ce soit en agriculture bio ou autre. C'est vrai que souvent, ces dernières années, avec les augmentations du prix du foncier, les installations sont assez compliquées. Et donc, ce qui reste plus accessible, ce sont les installations sur des petites surfaces, avec des investissements moindres. Et dans ce type d'exploitation, c'est vrai que c'est souvent plutôt sur de l'agriculture biologique, parce qu'au niveau des débouchés en vente directe, ça marche mieux.
Qu'est-ce qui vous différencie concrètement, au-delà de l'utilisation des pesticides par exemple, de l'agriculture, on va dire, intensive ?
Ce qui différencie, c'est vraiment la posture globale par rapport à la culture. On considère le sol, la culture et l'environnement tout autour comme un tout. Et on ne regarde pas juste, par exemple, le sol comme un substrat inerte dans lequel il faut injecter des substances pour faire pousser les plantes et des produits sur les plantes pour éviter qu'elles soient parasitées ou qu'elles aient des maladies. Donc on essaie de voir le système à une échelle un peu plus globale et comme un écosystème. Et notamment concernant le sol, on essaie de respecter au maximum le sol. Et un des grands principes, c'est de nourrir le sol pour que lui-même nourrissent la plante.
Et dans ce cas-là, comment vous vous inscrivez dans cette notion de développement durable ?
Au niveau développement durable, il y a le respect de l'environnement, donc la pratique de l'agriculture bio est un moyen de respecter au mieux la terre et l'environnement, essayer de faire en sorte que la terre ne soit pas épuisée et laisser une terre qui soit exploitable pour les générations futures. Donc ça, c'est un point important. Ensuite, au niveau du pilier social du développement durable, l'agriculture bio est pourvoyeuse de, en moyenne, 50% d'emplois en plus. Donc, socialement, c'est plutôt intéressant. Et nous, sur notre ferme, c'est le cas. Donc, sur 2 hectares, il y a ma femme qui est l'exploitante. Il y a une salariée.
Aline, si j'ai bien
c'est
compris.
Aline. Voilà. Oui, c'est ça. Et donc, ça fait deux emplois, donc plus moi qui suis conjoint collaborateur, mais qui ne suis pas rémunéré. Donc, ça fait 2 emplois sur 2 hectares, donc 1 emploi à l'hectare, ce qui est quand même assez considérable si on compare à d'autres systèmes plus mécanisés ou intensifs. Et enfin, au niveau économique, effectivement, comme il y a plus d'emplois, les produits bio sont un peu mieux rémunérés que les produits conventionnels, ça permet au global, au niveau économique, ça fonctionne mieux.
Recto Verso, présenté par Corinne Saint-Félix sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans.
Fred Join, vous nous l'avez dit, vous commercialisez du bio et essentiellement vos récoltes, vous les commercialisez en AMAP. On peut vous retrouver dans ces structures au Mans, à Changé, à Lombron. L'AMAP, c'est l'Association pour le maintien d'une agriculture paysanne. Peut-être pouvez-vous nous expliquer un petit peu ce système pour tous ceux qui ne connaisseraient pas. C'était mon cas avant de préparer cette émission.
Donc une AMAP, donc, comme vous avez dit, c'est une association pour le maintien de l'agriculture paysanne. Donc c'est concrètement un groupe de personnes qui a envie de consommer des produits de proximité et le plus souvent bio, qui va solliciter un agriculteur ou dans notre cas quelqu'un qui allait s'installer pour pouvoir se fournir en fruits et légumes. Et le but de cette AMAP, c'est pas simplement d'avoir un comportement de consommateur, mais c'est aussi avoir un rôle social important, puisque ça va favoriser l'installation et le développement économique d'une structure agricole. Donc dans le fonctionnement, ce qui est important, c'est que les personnes s'engagent pour un an à acheter la récolte chaque semaine. Et ils payent leur panier en début de mois. Donc ça permet d'avoir une avance de trésorerie. Et donc ça, c'est déjà un point important. Et puis le fait de s'engager sur un an, ça permet de planifier les cultures et donc de bien mettre en adéquation les quantités de légumes qui vont être mises en culture, récoltées, et puis la vente, ce qui permet de pas perdre de légumes. Et donc, ça permet d'augmenter l'efficacité dans le travail. Un autre point important, il y a de la part des Amapiens un coup de main. Donc, chez nous, c'est un coup de main deux fois par an sur la ferme. Donc, pour nous, c'est important d'avoir que les gens qui participent à une AMAP viennent sur la ferme pour qu'ils voient comment ça se passe, comment c'est, comment on travaille. Donc, ils viennent pour ramasser les pommes de terre. Donc, c'est un gros chantier. Et l'autre gros chantier, c'est pour ramasser les courges, les potimarrons, les potirons, les choses comme ça. Et donc, c'est des moments qui sont très conviviaux. Et bon, en général, c'est une demi-journée à chaque fois. Et c'est pas un travail qui est harassant parce qu'on est très nombreux. Et ça permet de nouer des liens entre les Amapiens et puis avec nous qui sommes les agriculteurs.
Voilà, les Amapiens, c'est ceux qui sont justement dans le système de l'AMAP.
Voilà, c'est ça.
Alors, comment se constituent vos paniers ? Ils changent au fur des saisons, je suppose.
Ouais, c'est ça, oui. Donc, pour constituer les paniers, donc, évidemment, c'est en fonction des légumes de saison, puisque... On ne vend que nos légumes et au printemps c'est des légumes de printemps, ensuite en été la même chose, des légumes d'été, tomates, concombres, courgettes, poivrons, aubergines, etc. On met en culture différentes cultures de manière à avoir des paniers les plus variés possibles et à les faire varier d'une semaine sur l'autre. Et donc pour essayer de satisfaire au mieux les amapiens, donc à la fin de chaque année, on leur envoie un questionnaire où on leur demande si la quantité de légumes pour chaque légume était suffisante, s'ils en veulent plus pour l'année prochaine ou s'il y en avait un peu de trop de cette variété-là et s'ils en veulent moins pour l'année suivante. Donc le but est d'essayer de coller au mieux aux envies des amapiens. Et puis sinon, dans la constitution hebdomadaire de chaque panier, on essaie de faire des quantités cuisinables de légumes, donc à chaque fois de mettre des bonnes quantités et la variété, donc pour pas qu'il y ait tout le temps la même chose dans les paniers, puisque comme les gens ne choisissent pas le contenu du panier, c'est important que nous, on y mette la variété et puis, comme je vous disais, les quantités cuisinables.
Et vous avez déjà beaucoup d'amapiens dans votre système ?
Alors actuellement, on a 70 amapiens sur 3 AMAP.
Ils ont des demandes particulières par rapport aux légumes, eux ?
Non, j'ai pas l'impression qu'il y ait de demandes particulières. Donc dans le détail, c'est lorsqu'il y a le questionnaire à la fin de l'année pour ajuster un petit peu. Mais là, au bout de 3 ans, on est à peu près arrivé à ce que les quantités correspondent aux envies des personnes. Non, globalement, les gens sont satisfaits surtout de la qualité, du goût et de la fraîcheur des légumes, puisqu'à chaque fois les légumes sont récoltés juste avant d'être livrés. Donc, on a vraiment des légumes de très grande fraîcheur et qui se conservent du coup longtemps à la maison. Et puis donc, par notre mode de culture et le choix des variétés, on a aussi des variétés qui sont très très goûteuses. Et il y a vraiment une grande satisfaction sur le goût des légumes.
Et on va revenir dans un instant sur la ferme du Hanneton. Et s'il en est bien qui ont chanté la nature, eh bien c'est bien eux. Voici pour le plaisir Trio, l'hymne de nos campagnes sur Radio Alpa.
Si tu es né dans une cité HLM, je te dédicace ce poème en espérant qu'au fond de tes yeux ternes, tu puisses y voir un petit brin d'herbe.
Et les mâles vont faire la part des choses,
il est grand temps
de faire une pause à troquer cette vie morose
contre le parfum d'une rose. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos la vie manne, du monde animal, crie le bien fort, use tes cordes vocales. Pas de boulot,
pas de diplôme,
partout la même
odeur de zone, plus rien n'agite tes neurones.
Pas même le shit que tu mets dans tes cônes. Va voir ailleurs,
rien ne te retient.
Va vite
faire quelque chose de tes mains.
Ne te retourne pas
ici, tu n'as rien.
Et sois le premier à chanter ce refrain. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales.
Assieds-toi
près d'une rivière,
écoute le coulis de l'eau
sur ma terre. Dis-toi qu'au bout, il y a la mer,
et que ça n'a rien d'éphémère.
Tu comprendras alors que tu n'es rien comme celui avant toi, comme celui qui vient, que le liquide qui coule dans tes mains
te servira à vivre jusqu'à demain matin.
C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales.
Assieds-toi près d'un vieux chêne et qu'on parle à la race humaine. L'oxygène et l'ombre qu'il t'amène, mérite-t-il les coups de hache qui le saignent? Lève la tête, regarde ses feuilles, tu verras peut-être un écureuil qui te regarde. De tout son orgueil,
sa maison est là, tu es sur le seuil. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. Hey, crie le bien fort, use tes cordes vocales.
Peut-être que je parle pour ne rien dire, que quand tu m'écoutes, tu as envie de rire. Et si le béton est ton avenir, dis-toi que c'est la forêt qui fait que tu respires. Et j'aimerais pour tout les animaux, que tu captes le message de mes mots, car un lopin de terre, une tige de roseau, c'est
servir à la croissance de tes marmots, servir à la croissance de tes marmots. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal, crie le bien fort, use tes cordes vocales. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal, crie le bien fort, use tes cordes vocales. Hey!
Recto Verso, présenté par Corinne Saint-Félix sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans.
Trio L'hymne de nos campagnes, alors Fred Join toujours avec nous pour parler de la ferme du Hanneton. Vous vous êtes installé en 2010, on l'a déjà dit, et depuis, on ne peut pas dire que le temps vous a été très très favorable, beaucoup de pluie, du froid, de la neige, et comme beaucoup de maraîchers, vous en avez souffert, ou en tout cas vous avez dû subir les conséquences de ces intempéries. Quelles sont les conséquences sur les plantations et les semences?
Les semis, vous voulez dire?
Les semis. Ouais. On reconnaît ceux qui ne sont pas dans l'agriculture.
les deux premières années, on avait eu un climat plutôt sec et ça s'est plutôt bien passé. Mais c'est vrai qu'en 2012, ça a été très pluvieux, pas beaucoup de soleil, donc ça a été assez difficile. Notamment pour des mises en place pour travailler le sol. Donc on a des parcelles, on a la moitié de nos parcelles qui sont très humides, enfin qui sont humides, mais là en 2012 elles étaient très humides, voire un petit peu inondées. Donc on a eu du mal à pouvoir implanter nos cultures, et puis on a eu des cultures qui se sont retrouvées sous l'eau, donc évidemment on ne récolte pas dans ces cas-là, on récolte rien du tout. Donc 2012, de ce point de vue-là, ça a été dur. Donc en plus, donc c'est resté humide, y compris jusqu'à l'été. Donc avec du coup une pression de maladies, notamment sur les oignons, échalotes, sur les tomates, sur les pommes de terre. Donc ça a impacté fortement les rendements. Donc 2012, c'était une année assez difficile au niveau de la production. Et puis, en plus, donc le temps humide ne favorise pas le désherbage, puisque nous, on désherbe de manière mécanique, c'est-à-dire à la binette ou avec des outils type bineuse. Quand il pleut tout le temps, on désherbe à la binette et puis ça se renracine juste derrière. Donc, il faut recommencer plein de fois. Et ce qui occasionne un surcroît de travail. Donc, beaucoup, beaucoup de travail et puis moins de production. Donc, 2012, assez difficile. Et puis 2013 commence je dirais pire que 2012, parce qu'on a eu de l'eau depuis l'automne, et donc on a des parcelles, donc depuis le mois d'octobre, donc on peut pas y aller, on peut rien faire, donc on attend. Donc c'est un petit peu gênant parce qu'on sait pas trop où on va planter nos cultures. Donc on a la moitié de notre parcelle, de nos parcelles qui sont sur du sable drainant, où ça pose pas de problème. Mais par contre, l'autre moitié est impraticable. Et donc ça nous pose des problèmes, mais bon, ça, dans un peu partout, dans les différentes filières agricoles, ça pose des soucis de semis. Hein.
Parce que vous avez des serres aussi, mais même sous serre, ça devient compliqué.
Alors sous serre, oui, c'est quand même plus simple, parce que sous serre, il pleut pas. Ou seulement quand on arrose. Donc là, on gère l'arrosage comme on veut. Et donc, sous serre, il n'y a pas de problème d'humidité.
Vous êtes obligé donc de vous adapter à ces conditions. Vous avez déjà trouvé une alternative pour proposer des légumes à déguster malgré tous ces petits problèmes, on va dire?
Alors nous, au niveau de la production, on a une période d'arrêt qui est située entre la fin de l'hiver et le début du printemps, puisque... En fait, chaque année, donc, on cultive des légumes, et dont des légumes de conservation qui vont se conserver tout l'hiver. Donc, on essaie d'aller le plus loin possible dans l'hiver. Et ensuite, il faut attendre que les légumes de printemps arrivent. Donc, pour éviter que les paniers soient trop petits et pas très intéressants, donc on fait carrément une coupure de production, donc qui est de 6-8 semaines. Durant laquelle, en plus, comme c'est le printemps, on peut se consacrer notamment à la production des plants. Donc, on va faire les plants de tomates, de courgettes, poivrons, concombres, etc. Tout un tas de plants. Donc, il y a énormément de travail à ce niveau-là. Et donc il y a cette période d'arrêt. Et ensuite, au mois d'avril, fin avril, normalement, ça redémarre. Sauf que, bon, cette année, avec le froid qu'il y a eu au mois de mars et puis jusqu'à aujourd'hui à peu près. Là, ça se réchauffe doucement, mais donc jusqu'au 10-12 avril là. La végétation a à peu près 15 jours, 3 semaines de retard, donc du coup, on va redémarrer à peu près pareil avec 15 jours, 3 semaines de retard par rapport à d'habitude.
Par rapport toujours à ces intempéries, vous avez eu des pertes sur les plants déjà plantés, tout ce qui était déjà en terre, est-ce que vous avez déjà beaucoup de pertes?
Cette année, non, parce qu'on n'a pas planté dans les zones humides. Donc, on est sur des zones qui sont drainées, donc cette année, il n'y a pas de perte sur les plantations. Il y a simplement le fait qu'on a planté, par exemple, les salades, les épinards, les carottes, etc. Mais ça ne pousse pas à cause du froid et du manque de lumière. Donc là, ça va redémarrer dans les jours et les semaines qui arrivent. Là, ça a l'air beaucoup plus favorable. Mais tout ce qu'on a planté, ça n'a quasiment pas bougé.
Recto Verso, présenté par Corinne Saint-Félix sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans.
Alors Fred Join, vous tenez aussi à jour très régulièrement votre site internet.
C'est ma femme surtout.
C'est votre femme surtout.
C'est ma femme qui s'occupe.
Donc, avec beaucoup
site.
D'humour. Donc vous le tenez régulièrement à jour, c'est lafermeduhanneton.net. Et j'y ai découvert vos déboires avec une petite souris.
Oui.
Plus de paquets de roquettes, une commande pour mesclun à refaire. Où en êtes-vous dans cette histoire?
Donc sur la ferme, on a des chats qui sont censés faire leur travail de chat, c'est-à-dire chasser les souris. Mais peut-être qu'on leur donne un peu trop à manger et ils deviennent feignants. Donc dans une serre où il y a un chat qui a élu domicile, on avait donc un placard avec nos semences dans des boîtes et les petites souris ont réussi à rentrer dans le placard et manger les boîtes en plastique pour pouvoir ensuite manger les graines à l'intérieur. Ces petites souris ont aussi mangé les graines une fois plantées dans le terreau. Donc on a eu pas mal de dégâts à cause de ces petites bêtes. Donc on a mis des pièges, mais les souris sont malines. C'est pas si simple de les avoir avec des pièges. Et puis finalement, donc avec un système d'ultrasons, on a réussi à être tranquille.
Ah. Voilà. Donc plus de petites souris.
Non, plus de petites souris. Oui.
Vous avez eu beaucoup de pertes au point de vue économique avec cette souris?
Oui, quand même, oui. Oui, parce que les semences, c'est un des gros postes de dépenses et. Des graines, une graine de concombre, ça vaut près de 1 euro. Donc, quand tu manges une plaque où il y a 25 graines, ça va très vite. J'ai pas le chiffre en tête, mais il y en a pour 200-300 euros peut-être. Quand même.
Parce que c'est semi. Ce sont ceux que vous récoltez déjà, vous, des années précédentes ou c'est
non.
des achats
C'est des graines qu'on achète. Donc
D'accord.
on achète à des personnes qui sont spécialisées dans la production de semences parce que la production de semences, c'est un vrai métier et ça prend beaucoup de temps. C'est quand même plus intéressant d'acheter des graines toutes faites pour certaines variétés. Parce qu'on n'a pas le temps. Enfin, nous, on n'a pas le temps, on n'a pas encore la technique pour fabriquer nos semences. Voilà.
Vous avez plus de repères que par rapport au début de votre installation? Il y a des systèmes qui commencent à se mettre en place ou
Oui, évidemment. Au bout de là, donc ça fait un petit peu plus de 3 ans. Au bout de 3 ans, on a beaucoup appris. Hein, c'est assez évident. Mais il y a toujours des surprises. Hein, comme le coup de la souris, on n'avait jamais été embêté par les petites bêtes de ce genre-là. Si ce n'est sur les récoltes, donc comme les pommes de terre où fallait faire attention, mais avec des pièges un peu partout, on s'en sortait. Et puis là, les chats faisaient leur travail. Mais on a toujours des surprises. Et puis au niveau climatique, pareil, hein, il y a toujours. On ne sait jamais comment l'année va se passer, quoi.
Alors en parlant un peu finance, la PAC et les aides qu'elle propose sont un sujet qui fâche un peu hein, dans le milieu. Les maraîchers reçoivent depuis peu des aides. Alors, environ 1300 euros, si j'ai bien compris, par an. Êtes-vous concerné par ces aides et les trouvez-vous sérieuses ou en tout cas adaptées?
Alors, les 1300 euros, ça va correspondre à peu près à ce que nous, on touche pour 2 hectares. Les aides de la PAC, ce sont des aides à l'hectare. Donc, plus on a d'hectares, plus on perçoit d'aides. Donc, je dirais dans le principe des aides de la PAC, nous on trouve que le mieux c'est de pouvoir vivre sans aide et de vivre tout simplement de son métier. Après, il y a toute l'histoire de la création de la PAC qui à l'origine était une bonne idée. Et aujourd'hui, sur beaucoup d'aspects, c'est discutable. Mais il y a l'inertie du système qui fait que le système, bien que complètement inadapté, persiste. Donc ce système favorise notamment l'agriculture intensive et les surfaces les plus grosses. Donc, dans ce système, les agriculteurs qui ont des pratiques vertueuses ne sont pas du tout favorisés. Les agriculteurs qui favorisent l'emploi ne sont pas favorisés. Donc il y a des choses à critiquer. Mais dans le fond, le mieux, c'est quand même que les agriculteurs vivent de leur métier et des prix rémunérateurs et pas qu'ils soient subventionnés.
L'agriculture intensive change ses méthodes de travail pour une agriculture, on va dire, raisonnée. Est-ce une concurrence à long terme pour vous ?
Aujourd'hui, ce qu'on constate dans l'agriculture dite intensive, c'est que la consommation de pesticides augmente toujours. Donc malgré les objectifs de réduction de pesticides, en 2012, on a consommé plus de pesticides qu'en 2011 et plus de pesticides que les années précédentes. Donc il ne faut pas croire que les pratiques agricoles se verdissent, comme on dit. Le système ne change pas. Ouais. Simplement, la consommation de pesticides augmente, mais elle augmente moins vite. Donc au lieu de polluer de plus en plus, on pollue de plus en plus, mais moins vite.
Et vous essayez justement de renverser cette tendance. Mmh. Sur ces quelques mots, je vous invite à consulter la site lafermeduhanneton.net, mise à jour régulièrement et truffée d'humour et de bonne humeur. Hein. Vous pouvez suivre les escapades des animaux aussi qu'il y a dans cette ferme. Vous pourrez aussi retrouver Fred et Delphine à La Map du Mans, de Changé et de Lambron. Merci Fred Join d'avoir été avec nous sur Radio Alpa. On vous souhaite du beau temps maintenant.
Merci.
Je vous retrouve pour le prochain numéro de Recto Verso. En attendant, mangez sain et passez une bonne fin de journée. Recto Verso du lundi au vendredi de 18h à 18h30 et le mardi de 18h30 à 19h sur Radio Alpa 107.3.